Bonjour tout le monde, est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Dans les starting blocks, nickel! Est-ce que le son est bon? Salut Samuel. Est-ce que la réception est bonne? Nickel, merci Samuel. Merci beaucoup, beaucoup. Avant de commencer, déjà, Marion s'excuse, c'est elle qui devait présenter ce matin, mais elle est trop malade, la pauvre. Grosse grippouille. Donc, c'est moi qui vais remplacer au pied nommé pour ce Techscope. Hop, attendez, je règle un petit peu. Juste une question, chez vous, la chatroom, elle apparaît du côté Xmas ou du côté télé? C'est juste, je voudrais juste me rappeler, parce que je crois que c'est à l'inverse de moi. Côté télé, vous avez la chat côté Xmas ou télé? Ah bon, vous n'êtes pas d'accord. Côté télé, la chatroom, elle apparaît, vous? Alors, ceux qui ont la chatroom qui apparaît sur l'image. Sur l'image, c'est côté télé. Oh putain, il y en a, ça apparaît du côté Xmas. Donc, ça dépend des gens. Ah. Ouais, c'est tout le problème. C'est bien ce que je me disais. Ça dépend. Ça dépend effectivement d'où vous regardez le live. Donc, je vais essayer de rester un peu au milieu. C'est comme ça que ça dérange le moins. Parce que c'est vrai que j'avais tendance à présenter souvent comme ça. Ou comme ça, et donc j'ai souvent la gueule masquée par la chatroom, mais ça dépend comment vous le regardez, sur quel navigateur. La chatroom étant manifestement mobile. On voudrait remercier, c'est le responsive, tout est de la faute du responsive. On voudrait remercier ce matin nos tipeurs adorés, on est dans la catégorie 12-11 mois, et ce matin du numéro 231 au numéro 235, on aimerait remercier YMDH, c'est imprononçable, hein, YMNBZH. Comment voulez-vous que je prononce ça à 8h du matin? Vous n'êtes pas sympas les gens, hein. Merci Samuel. On voudrait remercier Julien aussi, Xavier, Boguay et Youpi Mac. Hein, Youpi Mac. Merci beaucoup à vous les tipeurs, sans qui nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là pour nos émissions sur la chaîne principale Nowtech et pour ce live sur la chaîne secondaire Nowtech Live. Il me buzz. Il y en a qui me proposent des... Non, ça serait... Imnebzash. Voilà. Comme ça qu'on prononce. Merci beaucoup Arnaud, retour depuis septembre, désolé d'avoir séché, écoute, tu es tout excusé, hein. Un super chat, ça efface tout et on redémarre. Merci beaucoup à toi Arnaud pour ce super chat. Bonjour à tous, il faudrait un état civil pour enregistrer les pseudos, je suis d'accord, je pense qu'il faudrait, faut un passeport et un contrôle biométrique. Et rejeter les foireux. T'as raison. Le racisme anti-pseudo imprononçable. Joli placement produit à droite. Qu'est-ce que j'ai placé? Parce que alors, attendez, droite, gauche, chez moi, c'est pas la même chose que chez vous. Qu'est-ce que j'ai placé? Xmas, c'est pas un produit. Qu'est-ce que j'ai placé comme produit? Je vois pas. La bouteille, il y a une bouteille. J'ai oublié une bouteille. Ah, merde. Vous voyez ça, là? Putain, le cadre de l'iPhone... Ouais, il y a un problème avec l'iPhone 10. Il ne me montre pas exactement le cadre que vous voyez. J'enlève parce qu'ils ne m'ont pas payé. Hein. Vous n'avez qu'à me payer hein, si vous voulez que je montre vos produits. Non, mais oh. Ben, en fait, juste pour vous donner le problème technique, c'est que l'iPhone, avec effectivement le ratio de l'écran, je ne vois pas ce qui est cadré sur le bas de l'image. Donc, je ne pourrais pas mettre mes t-shirts ras dessin, là, avec ventre à l'air, parce que moi, je ne vais pas voir que vous voyez. Hélas, toute une collection qui s'envole. Au lieu de dire des conneries, Jérôme, est-ce que tu ne ferais pas le sommaire? Eh bien si, on va faire le sommaire ce matin. On va parler de l'explosion au décollage, non pas d'Ariane 6, mais du nouveau Conseil national du numérique en France. Donc une information franco-française. Effectivement, ce Conseil national du numérique, instance consultative pour le gouvernement, eh bien, vient d'exploser au décollage. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. On parlera également de WhatsApp qui vient d'être mis en demeure par la CNIL. On parlera également pourquoi votre iPhone est devenu beaucoup plus lent d'un coup. Pourquoi les iPhones ralentissent-ils? Est-ce que c'est un complot obsolescence programmée de la part d'Apple? Oui, mais non. Hein, vous savez que j'aime bien les réponses de Normand. Hein, donc, on va en faire une. On parlera également de Facebook qui va vous alerter quand vous êtes sur une photo, même si vous n'êtes pas tagué. Sauf que si vous habitez en Europe, eh ben, vous n'aurez pas cette information. Ça sera disponible dans le reste du monde, mais pas en Europe, et je vous expliquerai pourquoi. On parlera également de la fin des objets connectés pour Adidas. Adidas, c'est fini, en tout cas au niveau des objets connectés. On parlera des nouvelles règles de Twitter aussi, qui offrent une... Enfin, là, ils ont fait un petit twist dans leurs règles. Et a priori, ça protégerait un petit peu les tweets de Trump. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et on terminera par, puisque vous vous inquiétez avec vos bitcoins, vos futurs milliardaires, vous inquiétez quand même un tout petit peu du réchauffement de la planète et du fait que les bitcoins consomment énormément d'énergie, nous avons une solution pour vous. Un jeune mathématicien a décidé de miner ses bitcoins avec du papier et un crayon en faisant tous les algorithmes à la main. Et ouais, vous verrez que c'est complètement taré. C'est chez toi, c'est live. Qu'est-ce qui m'arrive chez moi? Ah oui, c'est chez toi, Alexandre. La vidéo n'a toujours pas démarré. Oui, il faut que tu... Parfois, il faut relancer le truc pour que la vidéo démarre. Ça avait commencé les objets connectés chez Adidas. Oh, le troll! Bonjour à tous. Le sommaire, j'espère qu'il vous convient. On va dire il est léger. Hein. Ce n'est pas un dodu de chez dodu. Mais il y a de quoi faire quand même ce matin. Un petit peu à mâcher, hein, des protéines pour bien commencer votre journée. On va commencer effectivement avec l'explosion au décollage, effectivement, du Conseil national du numérique. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que le Conseil national du numérique? Parce que vous n'êtes peut-être pas au courant. C'est effectivement une instance consultative pour le gouvernement, pour effectivement débattre de toutes les questions liées au numérique. J'essaie de vous retrouver la définition exacte. Nanana, je l'avais, mais bien sûr, comme je ne peux pas stabilo bosser... organisme chargé d'éclairer le gouvernement sur les sujets du numérique. Voilà, en gros, c'était un petit peu ça. C'était dirigé avant par notre secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi. Et depuis, la présidence était un peu flottante. On nous avait appris début décembre que c'était Marie Ekalande qui allait diriger ce Conseil national du numérique. Et on apprend avec stupéfaction que mardi 19 décembre, elle a démissionné, mais pas seulement elle, 27 personnes ont démissionné par solidarité. Elle estime que ce qui se passe va l'empêcher de faire son travail correctement, travail qui est d'ailleurs bénévole, hein, cela dit en passant, du Conseil national du numérique. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu un petit peu de rififi Il y a eu un petit peu de rififi, effectivement, entre le gouvernement et le Conseil national du numérique, qui portait sur deux personnes controversées qui avaient été nommées au Conseil national du numérique. Et notamment, alors j'espère pas écorcher son nom, Rokhaya Diallo. Oui, Rokhaya Diallo, et également Hicham Kochman, un rappeur engagé. Pour revenir sur l'histoire de Rokhaya Diallo, ça a fait des remous sur les réseaux sociaux, parce que c'est une personne très engagée, effectivement, dans la lutte contre le racisme, et elle a eu des propos estimés déplacés par certains, sur notamment le port du voile en France. Je rentrerai même pas dans la polémique parce que c'est pas le sujet de ce débat. Le truc, c'est qu'effectivement, on va dire que il y a presque un tabou quand même en France sur cette histoire de voile. On peut bon, ça y est, je vois déjà qu'il va y avoir des polémiques dans la chatroom. Cette histoire de voile, on n'a presque même pas le droit de s'exprimer là-dessus. Et bref, ça a déplu, le gouvernement a fait savoir qu'il n'était pas content de cette nomination. ah mince, attendez, je me suis trompé. Je voulais parler... Non, oui. Marie Eklund. Non, pardon, je confonds un petit peu les noms, mais en fait, non, je n'avais pas confondu. C'est bon, je suis ici. Effectivement, elle a dit, moi, j'ai nommé ces personnes justement pour qu'il y ait un débat là-dessus. Attention quand même à ce que vous dites dans la chatroom, parce que je ne voudrais pas que ça parte en live, ce genre de débat, et je lis des choses qui me déplaisent. Donc voilà, maintenez un langage correct, quelle que soit votre opinion, on ne va même pas débattre du sujet. Je préférerais pas qu'on parte sur ces sujets-là, c'est des sujets, on va dire, à haute volatilité. N'approchons pas l'allumette. Non, non, justement, on ne va pas faire de débat. Là, c'est l'information que je vous donne. Conseil national du numérique, donc une démission de masse en solidarité. Effectivement, on va dire que un conseil qui est là à titre consultatif et qui doit faire part, une plus grande part possible, au débat démocratique, doit peut-être effectivement faire appel à des profils les plus différents possibles pour que la représentation soit la plus grande possible. Et puis, d'une manière générale, moi après, je comprends pas tout là-dedans. Je comprends vraiment pas tout de ce qui se passe, mais de ce que je sais, c'est un peu bizarre un gouvernement qui dit « Bon, on a un conseil consultatif, donc c'est des gens censés nous donner des conseils, même nous dire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. » Et puis après, tout de suite derrière, de dire « Ah ouais, non, mais les gens que vous avez mis dedans, là, ils vont pas dire les trucs que j'ai envie d'entendre, donc non. » Encore une fois, je ne comprends pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Je n'ai pas assez lu les infos et je ne connais pas les arcanes. Mais on peut peut-être comprendre qu'une personne censée diriger une instance consultative prenne mal qu'un gouvernement. On a compris, RP, que tu n'étais pas d'accord. N'insiste pas, parce que sinon tu vas... On ne veut même pas rentrer dans le débat de cette histoire. Voilà. Moi, je parle uniquement du fait qu'il y a eu une démission, effectivement, de la présidente du Conseil national numérique. Voilà, on ne va pas rentrer là-dedans. Je vous apportais juste l'info. Qu'est-ce que vous racontez ? Après, vous pouvez justement vous informer vous-même. Hein. C'est ce qu'il y a toujours d'intéressant à faire. Moi, je ne fais que vous rapporter les news telles que je les lis pour le coup, là, je ne vais pas donner trop mon opinion. J'ai dit un petit peu vaguement ce que j'en pensais, mais avec ma toute petite compréhension du problème. Écoute, ceux qui n'aiment pas ma manière de traiter les choses, vous n'êtes pas obligés d'écouter l'émission non plus. Hein. Ah, j'ai commencé chaud. Écoute, moi, je commence avec les news. Hein. La news est partout. Tu reçois des notifications de la chaîne à 23h30? Ah non, j'ai rien mis de live. Tu as un problème avec tes notifications. C'est pas nous qui publions des lives à 23h30. Je peux te dire qu'à 23h30, non. Écoutez, ce que je vous propose, hein, vu la teneur du débat, prenez vos informations, faites-vous une idée vous-même. On ne va même pas partir. Moi, je vous donne juste l'information. Il y a une démission de Marie Ekeland, présidente du Conseil national du numérique. Il y a effectivement une polémique entre l'État qui n'aurait pas été content de certaines nominations, elle qui défend ces nominations-là. Donc 27 personnes du Conseil national numérique ont décidé de démissionner en même temps. Donc on n'a pas de Conseil national du numérique. C'est ça qui est peut-être le plus grave. Donc voilà, c'est peut-être eux aussi à mieux nous expliquer leur rôle et mieux nous expliquer les choses. Bref. Détendez-vous, hein. Bientôt Noël, sautez pas à la gorge des uns des autres, c'est absolument pas la peine. Allez, un peu de paix d'amour et de gourmandise, on va parler effectivement, on peut plus débattre en France. Je vous ai déjà expliqué quand même que c'est pas un lieu de débat évident, cette émission. D'abord parce que bah, la chatroom, moi je la lis quand je peux. Quelque part, j'ai une position de force par rapport à vous. On ne peut pas faire des débats comme ça sereins dans la chatroom du Techscope. Après, libre à vous, effectivement, sur YouTube, de continuer les débats qui sont lancés par les articles. Attention quand même, d'abord, il y a une modération sur YouTube qui n'est pas opérée par moi, mais il y a aussi une modération qui est opérée par moi. Donc, attention, et ça, je le dis à ceux qui ont employé des mots, attention aux mots que vous employez. On censure pas les idées, mais on censure les mots. Enfin, quand je dis on censure pas les idées, il y a des idées qui sont censurées en France, celles-là, on les censure. Tout appel à la haine, au racisme, etc., sont censurables. Bref, allez, on continue. Notre sponsor du mois, c'est cgourmand.fr pour vos friandises de Noël. Si vous voulez de la qualité, eh bien, il faut aller voir ce qu'ils proposent sur leur site. On vous a fait des dégustations en direct, on vous a parlé des chocolats Bonnat, on vous a parlé des pâtes de fruits, on vous a parlé de tout ce qu'ils nous ont envoyé. Nous, on se régale, effectivement, avec le panier que nous a envoyé cgourmand. On vous le recommande vivement. C'est effectivement l'entreprise de la femme d'un de nos tipeurs. Donc, on reste en famille. Moi, j'aime beaucoup pouvoir laisser cette place de sponsor à des petites entreprises, des petites startups. Je suis en train de revoir les règles, justement, du sponsoring de Techscope pour que cet espace soit vraiment réservé à des toutes petites entreprises. Je veux pas, effectivement, j'ai eu effectivement quelques propositions, etc., forcément le laisser uniquement à des grandes marques, surtout à ce prix-là, hein, on va être honnête, le prix de l'espace publicitaire est vraiment très très bas, je tiens à le garder bas, mais peut-être le réserver à certaines tailles d'entreprises et à certains business, des particuliers, des auto-entrepreneurs, des petites startups qui démarrent, des petites entreprises. Donc, très très content d'avoir C'est gourmand avec nous. Je vous rappelle que pour vous commander vos friandises, vous pouvez utiliser le code TECHCG. TECHCG vous permettra d'avoir une réduction de 5% sur le montant de la commande. Ce code est valable jusqu'au 15 janvier 2018. Donc, profitez-en. Profitez-en. Qu'est-ce qui s'est mis? Allez, je vois que ça continue le débat. Écoutez, j'ai absolument rien contre les débats. Moi, quand je vous dis qu'on ne peut pas avoir un débat, c'est surtout moi vis-à-vis de vous. Quand je dis que je suis en position de force, bah, c'est normal. C'est moi qui tiens le crachoir. Vous ne pouvez que taper du texte. Donc effectivement, et le format, je vous rappelle qu'on est ici dans une revue de presse. On n'est pas dans une instance de débat. Je comprends que certains estiment que je n'ai pas donné une info complète. C'est pour ça que je vous invite à aller lire sur le sujet pour vous faire une opinion par vous-même. Voilà. Allez, pas de time-out, effectivement. On continue, on va parler, j'espère que ça ne va pas être aussi polémique, de WhatsApp qui a été mis en demeure par la CNIL. Oui, mais la CNIL, c'est un complot. La CNIL, il y a des... Mais peut-être, j'en sais rien, moi. WhatsApp, effectivement, vient d'être mis en demeure par la CNIL, service de messagerie qui, je vous rappelle, appartient à Facebook. C'est une honte, c'est un complot. Et ce thé, est-il vraiment du thé, hein? Est-ce que Jérôme ne prendrait-il pas de la drogue en direct du Texcope, hein? Débat, polémique, le droit de savoir. Suite à son rachat en 2014, effectivement, l'app de messagerie WhatsApp a suivi une évolution qui est contrôlée par la maison mère. On se rappelle quand même effectivement qu'il y a eu un peu ce petit pas de danse de Facebook et de WhatsApp qui avait dit au début « Ouais, vos données, non, non, on les laisse chez WhatsApp, Facebook les utilisera jamais. » Puis finalement, « Ah, si, quand même, on va les utiliser parce que bon, voilà quoi. » Donc, la CNIL note effectivement, nomme l'absence de base légale sur l'utilisation des données. Plus concrètement, cela signifie que l'application transmet des données telles que des numéros de téléphone et des habitudes d'utilisation sans le consentement des utilisateurs. Donc, pour la CNIL, WhatsApp n'est pas dans les clous sur effectivement le fait qu'on doit valider les informations qui sont transmises. Moi, je pense de plus en plus que sur ces services qui gratuitement nous offrent des services en échange de nos données, je serais un peu pour ce que fait Apple avec la localisation, qu'on ait des rappels, pas tout le temps pour pas que ça soit du spam, mais régulièrement, peut-être une fois tous les deux mois, un petit message de rappel. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour que WhatsApp utilise vos données et qu'il y ait une législation sur que l'information qui est transmise aux gens qui l'utilisent soit, je ne sais pas, limitée à 180 caractères pour que la rende lisible. Parce que, évidemment, si on vous met les conditions d'utilisation plat en plan, trois pages à lire, et encore c'est le minimum, personne ne va les lire, on n'a pas le temps, ça nous fait chier. Mais qu'on oblige justement ces applications à nous résumer quand même les informations qu'elles transmettent. Les informations qu'elles transmettent d'une manière condensée et qu'on nous rappelle régulièrement qu'elles les transmettent. Mais on fait quoi avec les données? Écoute, les données qui sont récupérées, c'est des données anonymisées et marketing qui permettent d'étudier, on va dire, les comportements marketing des gens. Si sur WhatsApp, je sais pas, vous parlez des cadeaux de Noël et que vous êtes allé aux Galeries Lafayette et que voilà les produits que vous avez achetés et puis ben finalement vous allez faire la moitié des cadeaux après les soldes pour attendre les soldes, c'est des informations, les mots clés. Alors je schématise vraiment, mais des mots clés de ce que tu dis regroupés avec les mots de clé de ce que tout le monde dit sur les sujets, par exemple cadeaux de Noël, c'est transmis ensuite à des boîtes externes à WhatsApp comme des données marketing digérées sur les comportements des Français entre 25 et 35 ans utilisant WhatsApp sur les cadeaux de Noël, par exemple. C'est comme ça que sont utilisées les données, en tout cas en marketing. Je vous le redis beaucoup, le nom des personnes et qui elles sont vraiment n'intéresse pas le marketing. Parce que ça n'a aucune valeur marchande. Qui vous êtes vraiment? Par contre, vos comportements et les tendances, C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, cette année, tout le monde... moi, je remarque, par exemple, une tendance. Et j'ai fait du data mining dans la rue. Et avec Marion, on faisait nos cadeaux de Noël. La grosse tendance, en tout cas, dans les milieux bobos à Paris, hein, puisque je suis un bobo, vous le savez, la grosse... Ah, merde, il y a une coupure. Il y a une coupure... j'ai pas encore l'info de la coupure. C'est bon, c'est revenu. Bon, plaignez-vous à SFR, hein. SFR numéricable, on en a marre que vous ne laissiez pas Jérôme Kenborg avoir une connexion normale et qu'il soit sans cesse interrompu pendant son live le matin. C'est un scandale, ça fait 5 mois que ça dure. Voilà, je vous ai donné le tweet à faire. Je lance mon armée contre SFR numéricable. Et oui, là, du coup, j'essaye de faire plier le syndic de mon immeuble, mais comme je suis pas proprio, pour que la fibre orange puisse être tirée dans mon appart, puisqu'elle est dans la rue, mais elle n'est pas dans l'immeuble. C'est un scandale d'État, effectivement. Donc, je vous redis, ouais, puisque ça vous intéresse, quelle est la tendance Noël pour les bobos hipsters parisiens? C'est la mini serre tropicale. Hein, et d'ailleurs, je vais en avoir une, je crois, à un moment. Donc, je vous montrerai. C'est voilà, dans un bocal, petit arbuste, un peu de mousse, le truc comme ça. Mais alors, c'est la razzia. Et les fleuristes les plus connus pour faire ce genre de truc, puis on retrouve partout dans les magasins de déco, etc. Non, mais c'est pas une question de sous. Hein. La connexion, c'est que la fibre est pas encore tirée dans mon immeuble. La vraie fibre. Non, non, même pas. Ça sera pas ma soeur. Merde, j'ai dû rater des super chats. Bon, bah écoutez, si j'ai raté des super chats. Voilà, l'idée cadeau, hein, si vous avez des amis ou vous-même être hipster, bobo, parisien revendiqué, moi je l'assume complètement, c'est la mini la petite serre tropicale, le petit jardin dans une bouteille. Et si vous avez acheté ça, ouais, désolé de vous le dire, vous êtes un bobo hipster. Ah non, le 15e arrondissement à Paris, vous n'êtes pas des bobos. Hein. Vous n'êtes même pas à Paris. Le 15e arrondissement n'est pas un arrondissement parisien. Oh, le snob! Non, mais c'est vrai, quand même, le 15e, il n'y a pas du tout l'ambiance Paris. C'est chouette hein, comme arrondissement, mais on dirait pas Paris. Je ne vais pas me faire que des amis ce matin. Et non, mais je dis ça, j'ai habité 10 ans dans le 14e, 15e, donc je connais, hein. Non, c'est plus une question d'ambiance. Le 15e, c'est génial, mais c'est un quartier très familial et pas très parisien. Oui, bah pour moi, Montparnasse, c'est pas très très Paris, quoi. Touche pas au 15e. Ça y est, tous les boycott de tous les habitants du 15e arrondissement de Texcope. Mais moi aussi, je connais bien le 14e et le 15e et j'aime bien ces quartiers. Ce que je dis juste, c'est qu'il n'y a pas une ambiance très parisienne. En tout cas, on a la fibre orange. Ouais, là, tu viens de toucher le point sensible. Non, mais c'est vrai en plus. Putain, faut que je déménage dans le 15e, faut que je retourne dans le 15e. C'est quoi pas? Non, on arrête les débats polémiques. Hein. Si je commence à définir ce que c'est qu'une ambiance parisienne, je ne vais vraiment pas me faire que des amis. Allez, on arrête. Paris n'est pas la France, je vous le rappelle quand même. Enfin, il ne faut pas oublier quand même que Paris est en France, hein, parce que parfois, j'ai des radicaux dans l'autre sens, limite, vous les Parisiens, vous n'êtes pas des Français. Bon, bref. Yep. Allez, allez, on continue. T'as raison, Vertige. Focus. Hein, si je vous parlais un peu de l'iPhone et du complot international de Apple qui bride les iPhones exprès pour faire de l'obsolescence programmée. Scandale. Effectivement, des articles paraissent aujourd'hui et pullulent. un titre comme ça, ça fait vendre du clic. Hein. Pourquoi votre iPhone est devenu plus lent d'un coup, hein? Pourquoi? On vous le cache, merci Arnaud. La capote Bluetooth, un Noël connecté entre amis. Écoute, merci pour ton petit placement produit. voilà, une polémique encore plus grave que le Conseil national du numérique selon Geekbench, les iPhones et notamment l'iPhone 6, 6S et 7 auraient tendance à ralentir. Salaud Apple qui fait exprès de ralentir. Alors, d'après certains qui cherchent à pas forcément faire du clic, qui m'a expliqué les choses, ils disent oui, mais c'est un petit peu normal puisque on sait que les batteries diminuent sur les iPhones. Donc Apple a écrit quelques lignes de code qui effectivement, selon la durée de vie et l'âge de votre iPhone, va le brider un petit peu plus pour que la batterie ne tombe pas en rade d'un coup. L'indicateur de la batterie, vous savez, ces fameux problèmes qu'on a eus, hein, où il y avait des iPhones qui avaient 40% de charge et boum, qui s'éteignaient brutalement. Ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, il faut synchroniser, en gros, les performances de ton OS avec une décharge programmée de la batterie. On sait combien une batterie diminue pour que les notifications de la batterie soient toujours en corrélation. Mais d'autres disent, oui, mais c'est quand même un scandale, obsolescence programmée. Moi, mon opinion, c'est que comme d'habitude avec Apple, pourquoi pas, si c'est leur explication qui diminue un petit peu les performances de ces iPhones qui sont un peu plus vieux pour rester synchro à la batterie, mais qu'on nous tienne informés, encore une fois. Moi, je n'ai pas de problème pour qu'on me fasse des trucs à partir du moment où on me tient informé, que je puisse dire oui ou non. Hein. En gros, je n'ai pas de problème pour qu'on me fasse une crasse, mais on me tient informé, au moins que je sois au courant, que je puisse réagir, que je puisse jeter mon iPhone par la fenêtre et acheter un Android. C'est seulement les iPhone 6 de province qui rappent. Florian, ne jette pas de l'huile sur le feu. Alors, l'obsolescence programmée chez Apple, parce que c'est un sujet qui revient vraiment. Là, je vous demande de prendre un petit peu de recul. Et moi, je veux bien qu'il y ait de l'obsolescence programmée. On va encore dire que je défends Apple. Mais pour moi, il y a de l'obsolescence programmée sur tout le marché des smartphones. Parce que quand même, les Android, il n'y a même pas de mise à jour des derniers OS, même pas 2 ans après la sortie de même de certains flagships Android. Donc, l'obsolescence programmée, à ce moment-là, elle est partout. En Alsace, on a des iPhones allemands qui sont plus fiables, c'est bien connu. Ah, la mécanique allemande. Moi, c'est vraiment mon opinion. Hein. Pour avoir eu quand même pas mal d'iPhones, je trouve quand même que les iPhones ont moins d'obsolescence programmée que les Android. C'est mon opinion, vous pouvez me cracher dessus, allez-y, direct. Mais il y a des iPhones, et je voyais l'iPhone 5 de mon neveu. Alors oui, il n'est pas sur iOS 11, mais le truc a encore de la batterie. Alors certes, plus autant de performance que la batterie d'autrefois. Le truc tourne bien, quoi. Oh, j'adore Yellowfin. Chez Samsung, il n'y a pas d'obsolescence programmée vu que leurs téléphones ont une durée de vie de moins de 2 ans. Effectivement. Il n'est pas passé iOS 11. Oui, mais Android, ton Android qui a plus de 2 ans, est-ce que tu es passé sur le dernier Android? Déjà, est-ce que tu y es passé, le dernier Android? Ah, là, j'ai lancé une polémique. Hein, ça va vous faire oublier la première. Hein. « On en parle. Bah, battons-nous contre l'obsolescence programmée. Attention, les constructeurs ont mon dos. Ils font de l'obsolescence programmée aussi parce que nous, acheteurs, on est obsédés par la nouveauté. Et que quand notre smartphone a 2 ans, on a tendance à dire « Oh là là, putain, j'ai un vieux smartphone. Oh là là, je suis plus du tout dans l'air du temps. » On est quand même obsédé par la nouveauté et avoir des choses nouvelles. Donc, le problème de l'obsolescence programmée, pour moi, concerne autant les consommateurs que les fabricants. Là, je jette peut-être un pavé dans la mare, mais vous avez une responsabilité dans le phénomène des obsolescences programmées. Pour moi, quelque part, on n'est pas dans la fameuse histoire de l'obsolescence programmée des ampoules. Parce que les ampoules, un consommateur n'a pas forcément envie d'avoir une nouvelle ampoule tous les 6 mois. Vous savez, hein, ce truc où les constructeurs d'ampoules s'étaient mis d'accord pour une durée de vie moyenne des ampoules, pour que les gens rachètent des ampoules. Là, je dirais que c'est vraiment de l'obsolescence programmée décidée par les constructeurs. Quelque part, dans le cas des smartphones et de la technologie en général, je pense que le consommateur a un peu plus sa responsabilité dans le phénomène. Cette course à la nouveauté, cette ringardisation instantanée de la technologie qu'on achète, contribue effectivement à créer un marché où il est plus que tentant pour les constructeurs, en nous proposant sans cesse de la nouveauté, de brider les trucs moins nouveaux, quoi. Mais je vous donne juste un exemple. Par exemple, Apple s'est aperçu que les gens gardaient les iPads plus longtemps. Donc là, ils avaient un problème de vente. C'est-à-dire, les iPads, c'est pas qu'ils se vendent vraiment... Ça se vend pas hyper bien, mais ça se vend pas hyper mal. Mais le truc, c'est que le renouvellement de l'iPad, c'est sur des cycles de 4 à 5 ans. Les gens gardent 4 à 5 ans leur iPad avant de le changer. Vous avez deux manières de résoudre ce problème. Soit un mec chez Apple dit « Bon, on va faire en sorte que les iPads tombent en panne au bout de 2 ans pour forcer les gens à les racheter. » Soit vous dites « Bah, on va faire des iPads plus cher et moins cher, c'est-à-dire on va splitter le marché. C'est exactement ce qui se passe avec le marché des iPads. Apple a lancé des iPads Pro avec des fonctionnalités évoluées pour donner envie à ceux qui utilisent beaucoup leur iPad et notamment autrement que du consultatif à racheter un iPad effectivement pour travailler. Et en même temps, que plus de gens s'équipent d'iPad, quitte à les garder longtemps, en proposant une offre. Et allez voir le prix des iPads. Hein. Les iPads de base, le prix est relativement compétitif pour de l'Apple. Mais dans le 15e, on s'en fiche, on garde plus longtemps nos BlackBerry. Ah, vous êtes encore sur le débat des arrondissements. L'obsession chez Apple, elle est plus sur les Mac. On ne peut pas dépasser Snow Leopard sur des Mac blancs, alors qu'on peut mettre Windows 10 sur des PC de 15 ans. C'est pas tout à fait faux. Tu peux mettre Windows 10 sur des vieux PC. Est-ce que tu peux faire tourner beaucoup de choses? C'est aussi une autre question. Il y a des coupures. Manifestement, certains d'entre vous ont des micro-coupures ce matin. J'ai vexé les habitants du 15e. Est-ce que beaucoup de monde a des coupures ou 5 sur 5? Non, manifestement. Ça marche nickel. Bon, bah, désolé pour ceux qui ont des micro-coupures. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est l'obsolescence du réseau. Bon, en tout cas, l'iPhone est devenu plus lent d'un coup. Certains l'expliquent par, effectivement, on va dire, des contraintes techniques si vous voulez que votre smartphone continue à donner une information pertinente sur l'état de charge des batteries, il faut que le système soit légèrement ralenti au-delà d'une certaine durée. C'est l'explication. Alors, ce n'est pas l'explication officielle d'Apple. Hein. Apple n'a pas encore réagi au truc. D'autres disent, c'est de le... Donc, le débat est ouvert. Voilà. Le débat est ouvert. C'est comme le 15e est-il un véritable arrondissement à Paris? Le débat est ouvert aussi. J'adore rajouter de l'huile sur le feu. C'est ma tendance sadique. Et continuons en parlant de Facebook. Facebook, effectivement, qui a eu, à mon avis, plutôt une bonne idée. Vous savez que jusqu'ici, vous étiez averti si quelqu'un vous taguait sur une photo sur Facebook. Genre, vous êtes à une soirée complètement explosée, la tête à moitié dans le tonneau de Rhum, et quelqu'un fait une photo et vous tague. Vous êtes au courant, puis vous demandez au mec, t'es gentil, mais là, t'as la photo, mon patron va la voir. Donc, t'es gentil de la sortir. Facebook étend les choses, puisque maintenant, ils vont vous informer que vous êtes sur une photo, même quand vous n'êtes pas tagué. Ça sent le vécu. Tu crois pas si bien dire. Maintenant, même si vous n'êtes pas tagué, avec la reconnaissance du visage, si vous êtes publié sur une photo, Facebook va vous informer. Un tel a publié une photo dans laquelle vous apparaissez. Bien. Oui, sauf si vous habitez en Europe. Parce qu'effectivement, là, on arrive un peu dans un paradoxe. En Europe, on n'a pas, en tout cas dans une grande majorité de l'Europe, on n'a pas autorisé, c'est pour ça que sur Google Photos, vous n'avez pas la reconnaissance faciale, sur Facebook, il n'y a pas la reconnaissance faciale automatique. On a interdit en Europe, effectivement, l'exploitation des données faciales sur les réseaux sociaux. Vous pouvez l'exploiter avec un Face ID parce que ça reste sur votre smartphone. Mais sur les réseaux sociaux, ce n'est pas autorisé. Donc, c'est bien et en même temps, ce n'est pas bien. Parce que du coup, vous ne profitez pas de cette fonctionnalité qui permet de repérer si des gens ont pris des photos de vous à votre insu et que vous ne voulez pas que cette photo sorte. Non, même pas en option. Tu ne peux pas, sur Google Photos, activer... Alors, c'est là où j'aimerais rentrer dans les... Parce que tu peux le faire sur les Mac et les iPhone, activer la reconnaissance faciale sur ta bibliothèque, mais je pense que c'est parce que... Pourtant, la bibliothèque n'est pas publique, elle n'est pas sur le cloud, donc ça doit permettre... Et il n'y a pas d'exploitation des données. Je ne sais pas, là, il faudrait voir au niveau législatif... Pourquoi tu peux utiliser la reconnaissance faciale sur iOS et macOS et pourquoi sur Google Photos, on ne peut pas? Polémique Google Photos, un petit peu. Bah non, mais là où il y a une polémique, c'est qu'est-ce qui est le mieux? Tiens, avis à la chatroom, sondage à la chatroom. Qu'est-ce qui est le mieux? D'autoriser la reconnaissance faciale pour pouvoir effectivement que, en gros, vous soyez automatiquement alerté quand une photo de vous est publiée grâce à la reconnaissance faciale, ou ne pas activer la reconnaissance faciale et du coup ne pas savoir si on publie des photos sur vous, si elles ne sont pas taguées. Est-ce qu'on ne tomberait pas de carib en scylla? Sur Google Photos, c'est possible, oui, en passant par un VPN. Ne pas activer la reconnaissance faciale. Coupure, je suis désolé pour ceux qui ont des coupures. Manifestement, tout le monde ne les a pas. Ne pas activer. De quoi? Il y en a qui dormaient. Il y en a qui étaient restés sur la polémique du 15e arrondissement. Pas de reconnaissance faciale. Ne pas activer. Ne pas activer. Bon, bah, vous êtes d'accord avec la législation européenne, alors? Moi, je suis plutôt pour activer la reconnaissance faciale. Autoriser la reconnaissance faciale. Ouais, moi, je suis pour autoriser la reconnaissance faciale. Je pense que pour pas mal de raisons, effectivement, de sécurité et d'information, ça peut être intéressant qu'on soit informé automatiquement quand une photo où on apparaît est publiée. Et qu'on sache la source, en tout cas. Laisser le choix, oui, ça serait ce qu'il y a de mieux, à la limite. C'est ça, à la limite, qui me dérange un peu en Europe. Moi, je défends effectivement que les instances européennes me disent la reconnaissance faciale, bah, c'est un choix, mais qu'on me laisse le choix. Pas forcément qu'on décide pour moi. Moi, par exemple, je l'ai activé sur Google Photos en passant par un VPN, parce que ça me sert sur Google Photos à trier mes photos. La main devant le micro de temps en temps, bah pourtant il est accroché là. Non, c'est plutôt la main devant la bouche. Oui, effectivement, la main devant la bouche, vous n'avez pas le même son. Après, alors, en fait, je pense que les données faciales pour Facebook et Google, comment ils les exploitent, ça va plutôt être des corrélations de qui et où et fait quoi. Avec comme résultante, c'est le fait quoi qui est important pour le marketing. En gros, ils n'en ont rien à foutre que Tartampion soit allé en vacances au Maroc et qu'il a mangé un sandwich Subway à son retour. Ce qui leur importe, c'est de savoir que un jeune Français entre 15 et 25 ans voyage plutôt au Maroc en ce moment et va plutôt chez Subway. Cette information-là qui leur importe. Bah, en mettant le VPN, il ne sait pas que tu es en Europe. Donc, tu peux activer certaines fonctions qui sont désactivées en Europe. VPN peut servir à ça. Je vous dis ça, je ne vous ai rien dit. Alors après, il ne faut pas confondre effectivement gouvernement et les boîtes marketing. Tout le problème effectivement de la sécurisation des données, c'est que le marketing l'exploite de manière anonyme. Encore une fois, je vous le réexplique parce que l'identité n'a aucune valeur marchande dans le marketing. Mais le grand danger, c'est la porosité effectivement de ces fichiers avec les États. Et on l'a déjà vu, il y a eu des problèmes, effectivement, à partir du moment où des États d'ailleurs, que ce soit votre État, c'est-à-dire le pays dans lequel vous habitez, qui a droit à des données, on connaît la tentation des États à avoir un maximum d'informations sur sa population, mais également des États étrangers, des instances moins amicales, on va dire, qui pourraient avoir accès à vos données. C'est tout le fond du problème. Je vous laisse chercher hein, pour Google Photos. À la limite, vous faites une recherche Google, comment activer la reconnaissance faciale dans Google Photos et vous trouverez très facilement. Cherchez sur Google, je vous laisse faire. Il faut taper dans le champ de recherche, vous posez une question et Google vous répond. Une technologie absolument incroyable. Bon, bien sûr, ça vous pique vos données de recherche, hein, par contre, il faut le savoir. Allez, je focus et j'enchaîne. La fin des objets connectés chez Adidas. Vous ne le saviez peut-être pas, et moi, honnêtement, j'y avais absolument pas prêté attention, mais Adidas avait sorti des trackers d'activité sous la marque Mi Coach. Déjà, le nom est bien pourri, Mi Coach. Mi-humain, mi-coach. Les mi-coach Smart Run, ils ont décidé d'abandonner pour se concentrer effectivement sur l'application Adidas et Runtastic, puisqu'en 2015, ils avaient racheté l'application Runtastic. Je pense que certains d'entre vous l'utilisent, Runtastic. Run, oui, c'est bien, Runtastic. Donc, un peu comme Nike, hein, c'était un rachat, mi-coach. Oui, en plus, c'était pas eux à l'origine. Nike a également arrêté le Fuel Band, alors ça marchait bien. Ils étaient un des acteurs majeurs. Le problème, en fait, il est double. C'est que le marché des objets connectés, il est pas énorme. On ne s'improvise pas fabricant de hardware aussi facilement que ça. Et même si tu as une vraie légitimité en tant que marque de sport à sortir un tracker d'activité. Les gens, quand même, quand ils achètent un tracker d'activité, ils se réfèrent quand même à des noms de la tech et pas forcément du sport. Donc, ce que fait Nike, c'est ce que veut faire Adidas. Nike, c'est abandonner le Fuel Band, mais c'est rapproché d'Apple pour devenir un petit peu d'apporter sa caution de marque de sport en sortant une série spéciale d'Apple Watch et en sortant des bracelets et en ayant une place assez prépondérante avec son application sur les Apple Watch. C'est ce que Adidas veut faire, notamment avec Fitbit, puisqu'ils ont annoncé vouloir faire équipe avec Fitbit pour une édition Adidas de la prochaine smartwatch Ioniq en 2018. Oh là là, il y en a qui me sortent... ouais. Cherchez pas, on a eu assez de polémiques ce matin, n'essayez pas d'en lancer d'autres, surtout sur un sujet aussi anodin. La polémique, c'est la putaclic du faible. Ce sera ma phrase du jour. Garmin ou Apple Watch pour le sport. Ouais, Garmin marque des bons points hein, en ce moment. Je vois pas mal de gens qui... Je pensais que c'était une marque qui... Enfin, moi, j'ai jamais eu de produit Garmin, donc je connais pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'ils arrivent en ce moment à tirer pas mal leur épingle du jeu avec leurs objets connectés. À voir comment ça évolue. Oui, enfin, sans rentrer dans la polémique qui a voulu être lancée sur Adidas et le parti nazi, je vais aller lire la page Wikipédia aussi de l'histoire de Renault. Voilà, juste comme ça. Hein, et d'autres entreprises françaises. Bref, on ne va pas partir là-dessus. Nous allons plutôt parler... Oula, là aussi, c'est polémique. Ouh, merde. Putain, c'est chaud ce matin. Les nouvelles règles de Twitter offrent une porte de sortie pour les tweets déplacés de Trump. Vous le savez, il y a quelque temps, Trump avait effectivement retweeté des tweets sur des vidéos anti-musulmans venant d'Angleterre, ce qui a failli déclencher encore un énième incident diplomatique entre les États-Unis et UK. Mais bref, ne revenons pas sur l'histoire, je ne fais qu'énoncer des faits avant qu'on me dise t'as tort, tu dis pas l'ensemble des informations. Ok, bah j'en sais rien. Voilà, moi je vous lis ce qu'il y a dans l'article, je nomme ma source, article de Numérama, hein, écrit, je dénonce, hein, écrit par... c'est pas écrit. Ah, il a même pas voulu dire qu'il avait écrit l'article. Salaud ! Je crois pas. Non, j'ai pas le nom du journaliste. Bref, ah, attends, si. Non, ça c'est le crédit photo. Non, j'ai pas le nom du journaliste. John Doe. Salut Pascal, désolé, j'ai pas répondu à ton mail hier, mais tu nous as bien manqué hier. Désolé, hein, je fais une petite aparté personnelle à Pascal Mabi. Bah oui, c'est Techscope, j'ai le droit de faire ce que je veux. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez que Twitter est en train de mettre à jour ses règles d'utilisation. Je vous parlais effectivement du fait qu'ils vont faire la chasse effectivement à certaines personnalités extrême droite, néo-nazis, etc. Dans leur comportement sur Twitter, mais également hors Twitter. C'est-à-dire que quelqu'un, même s'il reste très correct dans ses propos et qu'il n'y a pas d'appel à la haine dans ses tweets, si derrière... on le retrouve à Charlottesville avec une pancarte avec des incitations à la haine, il peut quand même être ban de Twitter ou être rétrogradé pour peu qu'il ait la virgule. Bref, on vous a déjà parlé de ça. Le problème, c'est que du coup, Twitter s'est pris un backlash par rapport à ce que faisait Trump avec ses tweets. Et on a dit, traitement, voilà, il y a deux poids, deux mesures. Quand tu es président des États-Unis, tu as le droit de retweeter des appels à la haine et tu ne te prends pas un ban. Mais après, si tu n'es pas président que tu le fais, tu te prends un ban. Donc, Donc Twitter a dit, ok, et ben ils ont mis une nouvelle règle. Elle vaut ce qu'elle vaut. En gros, si vous êtes une entité gouvernementale, vous n'êtes pas touché par ces règles-là. Là, pour le coup, c'est institutionnalisé deux poids, deux mesures. Mais bon, donc en fait, cette nouvelle règle, pour être exact, désormais, le réseau social écrit clairement dans ses règles de fonctionnement que cette politique, alors cette politique qui fait que vous pouvez être ban avec des contenus incitant à la violence et au comportement de cyberharcèlement, eh bien cette règle ne s'applique pas aux entités militaires ou gouvernementales et nous envisageons de faire des exceptions pour des groupes qui s'engagent actuellement ou sont engagés dans une résolution pacifique. Donc, effectivement, avec cette règle-là, le président des États-Unis n'est pas concerné et peut faire des tweets incitant à la violence et au comportement de cyberharcèlement. Voilà. Alors, oui, Twitter peut faire ce qu'il veut. Et quelque part, alors, on aura vite fait de dire Twitter, lâche, salaud, foutage de gueule. Mettez-vous à la place de Twitter. Mettez-vous quand même à la place de Twitter. Vous bloquez le président des États-Unis. Parce que. Alors, de toute façon, c'est. On est au cas par cas. Et puis, on est tellement dans une situation en ce moment mondiale. On a un mec quand même tellement bizarre. Et je ne porte pas de jugement de valeur, mais c'est quand même... on vit dans un monde bizarre, quoi. On vit dans un monde bizarre où là... Mais je me dis, il y a des diplomates qui doivent pleurer, quoi. Diplomatie, on marchait quand même sur des œufs pour pas que le monde pète et vole en éclats. Bref, enfin bon. Là, je vais rentrer dans l'opinion. Il baisse son froc. C'est une entreprise privée. Est-ce que toi, si... Enfin, si t'avais... Putain, c'est pas évident de ban le président des États-Unis, quand même. Toutes les boîtes font pareil. Le monde qui pète, c'est très diplomatique. Voilà. Bon, en tout cas, la seule bonne chose là-dedans, c'est qu'on va dire qu'ils mettent au clair leurs règles. Donc, si vous voulez faire des tweets déplacés, on va dire, ou incitant à la haine et à la violence, bah, vous avez intérêt à être une instance militaire ou gouvernementale. C'est aussi simple que ça. Bon, je vois que le débat commence dans la chatroom. On va peut-être passer au dernier article avant que ça chauffe. Bah, la règle, je l'ai énoncée, la règle que Twitter donne, c'est que vont effectivement être ban ou se prendre des réprimandes sur Twitter tout contenu incitant à la violence et au comportement de cyberharcèlement, sauf cette politique ne s'applique pas aux entités militaires ou gouvernementales et nous envisageons de faire des exceptions pour des groupes qui s'engagent actuellement ou qui sont engagés dans une résolution pacifique. Voilà. Je ne sais pas trop quoi en penser quand même de cette histoire, dans le fond. On va voir comment ça évolue effectivement sur les réseaux sociaux. Là, c'est sûr que Twitter s'expose quand même à un violent backlash. Après, j'essaye de me mettre un petit peu à leur place. Allez, une petite polémique pour la fin. Allez, jésuites. Si tu mets un tri sur ta photo profil, ça marche. Bref, on verra effectivement comment c'est applicable. Et bon, après, qu'est-ce qu'une instance gouvernementale? J'ai envie de poser la question. Ça risque d'être ça qui est un petit peu compliqué. Il va falloir alors qu'il y ait vraiment des profils validés instance d'État, quoi. Je vote pour le Texcop le plus polémique. Je vais acheter du popcorn et lire les commentaires YouTube demain matin. Vous êtes des sadiques. Vous êtes des sadiques. Vous adorez les polémiques. Il est 9h et je n'ai pas fait mon dernier article. C'est pas bien, mais je le fais tout de suite. Vous, bien sûr, en écologiste, essayez, on va me dire, mais non, le réchauffement de la planète, c'est des conneries. On ne rentre pas dans cette polémique-là. Mais si vous avez des bitcoins, mais vous inquiétez quand même que tout ça, ça consomme quand même beaucoup d'électricité et ça pollue un petit peu la planète. Eh bien, il y a une solution. Une solution qui vous est apportée par Ken Sheriff, qui est un analyste mathématicien et qui vous dit que lui, il a décidé de miner ses bitcoins avec un papier et un crayon. Alors, sans rentrer dans les détails, vous savez que c'est un algorithme qui permet de miner les bitcoins et qu'on est obligé d'avoir des très grosses machines qui font beaucoup, beaucoup de calculs pour, et c'est ça qui fait consomme beaucoup d'électricité, pour pouvoir miner du bitcoin. Bien, lui a décidé, alors je vous montre quand même sa feuille de papier, et là, comme il dit, c'est vraiment un tout petit bout. Hein. Merde, l'image ne veut pas apparaître. Ah, le bug. Attendez, on va y arriver. Voilà. Voilà sa feuille de calcul, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc, il est en train, effectivement, de faire tous les calculs à la main. Alors, il dit, c'est relativement simple. C'est juste un petit peu long. Mais le mec n'en est pas à son coup d'essai, hein, parce que c'est quand même... c'est quand même un mec qui avait cité il n'y a pas très longtemps, enfin, et qui avait dit... je peux traiter à la main un filtre de flou qui est beaucoup plus simple que l'algorithme de minage sur Bitcoin. Le seul problème que j'ai rencontré, c'est que pour traiter une photo de 12 mégapixels de calcul, il faudrait que j'exécute le même calcul 12 millions de fois sur ma feuille de papier. Est-il libre mercredi soir ? Oui, je sais que mon iPad est... Mais faites l'expérience chez vous. Parlez pendant une heure devant un iPad que vous mettez là. Et vous m'envoyez une photo franche de l'état de votre iPad. L'histoire ne nous dit pas s'il fait tous les calculs de tête, c'est aussi d'utiliser une calculatrice. Écoute, il y a une vidéo, hein. Il y a une vidéo où il explique son délire. Le mec parle un peu comme un ordinateur. So our first step is going to be convert these to binary, which is straightforward but a little tedious. So we'll start with ABC 6 is 0110 1010000000. Je crois que j'ai trouvé ma nouvelle chaîne pour m'endormir moi. Now for the first operation we're going to compute the majority function on A, B, and C. What that means is simply we look at each of the three bits and see are there more zeros or ones. 0, 1, 0. Je crois qu'on a trouvé mieux que Sheldon. Voilà. Mais il a l'air bon, hein, le mec. Hein. Là, il n'a pas de calculette. Hein. Il fait tous ses calculs. Il fait tous ses calculs au crayon. Hein. Il y en a qui ont du temps libre. Ah, c'est clair que c'est pas un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Enfin, si, il en a fait une, justement. Mais il n'y a pas de montage. Sa vidéo, elle n'est pas montée. Franchement, branlot, moi, je dis. Gros branlot, va miner tes bitcoins avec ton papier et ton crayon. Va trouver une femme quand ta passion, c'est les bitcoins à la main. Bah, en même temps, pourquoi ça serait pas une femme qui minerait les bitcoins avec un papier et un crayon ? C'est quoi cette vision du monde ? Changez de vision du monde, les gens. Ça aurait très bien pu, je veux dire, des brillantes mathématiciennes, il y en a, hein. C'est pas ce qui manque, hein. À quand un tuto Bitcoin papier ? Ouais. Là, je pense que ouais, ça serait... Vous verriez la chute d'abonnement la plus spectaculaire de tout le YouTube français. Là, mais attendez, moi, je ne sais même pas faire une règle de 3. Qu'est-ce que vous voulez que je me lance là-dedans ? Je suis obligé d'appeler mon expert comptable pour qu'il me fasse mes règles de 3. Quand je dois faire une TVA à l'envers. Et comme dit Caribou, effectivement, il peut très bien aimer les hommes. Hein. Peut-être qu'il a un petit copain. Open-minded. Ah, moi, de toute façon, il serait incapable de faire mes comptes aussi. Pas pour des questions de calcul, mais parce qu'il faut retrouver les papiers. Allez, hein, on va pas lancer une polémique de plus. Putain, il y en a qui sont friands. Hein. Et, mais je sais pas, engueulez-vous avec votre frigo hein, si vous manquez de polémique. Hein. Il n'y a pas de Bitcoin dans le 15e, on est trop petit bourgeois free. Nazado, elle m'en veut pour le 15e. Mais t'es dans le 15e, Nazado, je ne savais plus. Pardon. Il ne semblait pas que t'étais dans le 15e. Pas de questions Platinium ce matin. Donc on va pouvoir faire, c'est la fin effectivement de l'émission, c'était le dernier article. On va attaquer tout de suite le Q&A. Si vous avez des questions, 15e Team Balladur. En t-shirt, hein. N'oubliez pas le t-shirt, Pascal. Tu n'oublieras jamais, Nazado. Je sens qu'au prochain Now Take a Drink, je vais en avoir 15e. C'est certains qui vont arriver avec un hashtag 15e en force. 15e dans ta face. Blackberry Team. C'est quoi miner un Bitcoin? Bonne question, Vincenzo. En fait, sans rentrer dans tous les détails, mais le Bitcoin, c'est une validation d'un certain nombre de transactions, enfin, beaucoup de calculs. Le chain... le BitChain... je trouve plus mes mots. La technologie derrière le Bitcoin, c'est le blockchain, merci. Blockchain demande énormément de calculs. Donc en fait, on propose, enfin ceux qui veulent, peuvent prendre en charge ces calculs avec leur machine et en échange, ils vont obtenir des petits bouts de Bitcoin. Donc c'est ça qu'on appelle miner du Bitcoin. Le Bitcoin étant une valeur finie, c'est-à-dire que je crois que c'est 15 millions de Bitcoin, ça sera le maximum. Et on ne pourra miner que 15 millions de Bitcoin. Donc, il faut faire énormément de calculs, surtout aujourd'hui. Parce que autant le Bitcoin était relativement facile à miner au début, mais plus on avance vers le taquet, 21 millions, c'est le maximum de Bitcoin qu'il peut y avoir dans le monde. À fur et à mesure qu'on approche des 21 millions, ça devient de plus en plus dur de miner. Miner, c'est pas du tout rentable, c'est juste rigolo. Oui, de ce que j'ai compris, même avec l'augmentation du prix du Bitcoin de manière spectaculaire, il faut quand même de très grosses fermes d'ordinateurs, beaucoup notamment de cartes graphiques qui tournent pour que le minage devienne rentable. Revenons à Google Photo, quelles sont les fonctionnalités bridées? Il n'y a que la reconnaissance faciale hein, qui est bridée en France. Ben, si tu l'as activé, c'est peut-être que tu l'as activé dans un autre pays, Yossi. J'ai acheté Plex tout à l'heure suite à ta vidéo de 2014. Ah oui, elle date ma vidéo sur Plex. Eh bien écoute, ravi que ça te plaise. On serait aujourd'hui à 16-17 millions de Bitcoin émis, ouais. Sachant qu'il y en a qui se sont perdus hein, aussi. Oui, les vidéos de Steven ou de Langue de Geek sont très bien pour comprendre tout du Bitcoin. Donc, je vous les conseille. Là, Vincenzo, je te conseille vraiment d'aller voir effectivement des vidéos qui vont t'expliquer un petit peu mieux. Celle de Steven, je trouve que c'est celle la plus grand public où il a expliqué comment fonctionnait le Bitcoin. Je te la conseille vraiment. Est-ce que... Whisky peut miner du Bitcoin. Oh, joli. D'où les sites web qui te minent. Tu m'étonnes. Oui, bah, c'est vrai que certains sites, maintenant, ils utilisent vos puissances de calcul pour pouvoir miner. Il existe des U à baïonnette. Eh ben, merci de l'info. Je croyais, Alexandre, qu'on ne trouvait pas de U à baïonnette. Parce que chez Marion, j'ai dû changer justement un culot. Parce qu'elle avait un culot à baïonnette pour lui mettre un culot à vis. Croyant qu'il n'y avait pas de U à baïonnette. NAS ou cloud pour les fichiers? Bah, moi, je te conseille les deux. C'est ce que je fais. NAS et cloud. C'est quoi le cadeau de Noël dont tu parlais, la serre tropicale en bouteille? Bah, en gros, c'est des mini-jardins. Ça ressemble un peu à des bonsaïs, mais qui seront dans des grosses bouteilles. Tu vois, enfin, moi, j'en ai pas, mais ça pourrait être une jarre comme ça, et puis tu vas avoir de la terre, tu vas avoir un petit arbre, de la mousse et un petit côté, un petit jardin bonsaï. La serre tropicale, c'est un nouvel ordinateur. Oh, joli, Chris. Oui, c'est un peu un terrarium, mais tu sais, les bobos, les hipsters inventent toujours des nouveaux mots. Je ne sais pas comment ils appellent ça, d'ailleurs. On peut dire que Marion est une femme qui a du culot. Ou une baïonnette, d'ailleurs. Oui, le magasin où, en fait, si je dis ça, c'est que ce week-end, on est allé à un magasin que Marion voulait voir. Je crois que c'est Green Labo, ou je ne sais plus, Green quelque chose. Il y avait la queue devant, quoi, devant la boutique. Les PC Snapdragon ont vraiment de l'avenir? J'en sais rien, je sais pas. J'ai pas vraiment d'infos là-dessus. Pour le GH4, GH5, il faut quel diamètre pour le filtre ND? Bah, StarTech, ça dépend de ton objectif. C'est les objectifs que tu vas mettre sur le GH5 qui vont te dire le diamètre du filtre ND. Après, je te conseille de prendre ton objectif qui a le plus grand diamètre, d'acheter un filtre ND le plus grand possible, enfin pour ton plus grand objectif, et ensuite de prendre des bagues adaptatrices. Parce que tu peux très bien avoir un grand filtre ND sur un petit objectif pour peu que tu aies les bagues de conversion, en fait, pour ton filtre ND. Pourquoi Shadow ne te sponsorise pas alors que tu as plus d'abonnements que Hard Disk? Écoute, j'en sais rien. Ils ne m'ont pas proposé, je vais être franc. Shadow, ils ne m'ont pas proposé. Je n'ai pas demandé non plus. C'est peut-être d'ailleurs mon problème, c'est qu'en fait, je ne demande pas aux marques. Je devrais peut-être le faire. Mais voilà. Après, est-ce que j'ai envie que Shadow me sponsorise? Peut-être pas, je ne sais pas. Écoute. C'est un problème complexe, ça dépend complètement. Là, aujourd'hui, voilà, je peux en parler librement, contrairement à ce que certains croient. Justement, je ne suis pas payé par Shadow pour faire des vidéos chez eux. Ça me permet peut-être d'avoir une liberté de parole si je vois qu'il y a des choses. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, normalement, je devrais enregistrer un FAQ sur le Shadow parce que j'ai eu tellement de questions. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas tenu de tenir un discours marketing ou quoi que ce soit sur la marque, quoi. Mais je vais être franc, on n'en a pas parlé. Je pense pas que je rentre dans le... Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont tort, mais ça, c'est un autre débat. Tu sais, les gens ont une vision peut-être un petit peu jeuniste de ce que c'est qu'un YouTuber. C'est vrai que je rentre pas dans les profils marketing de quand un groupe marketing décide qu'il faut qu'on fasse un truc avec un YouTuber, je rentre pas exactement dans le profil. Jérôme, penses-tu qu'utiliser l'onglet communauté YouTube pour un sondage sur le thème des prochaines vidéos en suivant le nombre de likes? Non. Ça, je te le dis tout de suite, Gelkita, pour moi, c'est la fausse bonne idée. Je ne veux pas vous demander votre avis sur les vidéos que j'ai à faire. Simplement parce que je ne veux pas me sentir forcé de faire un certain type de vidéo. Et que vous n'êtes, je vous le dis, vous ne savez pas les vidéos que vous voulez. Et que si on demande toujours l'avis aux gens, on va se retrouver toujours un peu avec les mêmes types de vidéos et ça va... voilà. Donc... Donc non, pour moi, c'est comme vous demander votre avis sur une couleur de logo ou ce genre de truc. C'est la fausse bonne idée. Ils ont une vision très arrondissement. Nazado, elle s'en est pas remise. Donc, ça peut paraître un peu méchant, ce que je dis. Je n'ignore pas vos idées. Je les écoute, ni vos opinions, bien loin de là. Mais je pense que si vous aimez la chaîne aussi, c'est parce qu'elle a une personnalité, que je décide des vidéos que j'ai envie de faire. Et ça s'en ressent dans les vidéos. Je suis comme un teckel, je m'accroche à la jugulaire et je lâche plus. Ah, oh, fais pas ton 15e. Effectivement, c'est la nouvelle. Quel est le nom de l'endroit où vous étiez ce week-end avec Marion pour acheter des mini-serres? On est allé à plusieurs endroits, puis j'ai pas envie de faire de la pub forcément pour des endroits. Voilà. Un don Tipeee anonyme. Bah oui, c'est facile, hein, puisque c'est lié au email que tu emploies. Après, tu ne seras pas complètement anonyme pour eux, mais c'est lié à un email. Tu ne seras pas complètement anonyme puisque tu utilises une carte bleue, mais oui, tu peux de manière anonyme, oui. Oui, c'est Green. Oui, effectivement, c'est Green Factory, c'est ça. La marque. Mais c'est pas là où on est allé. Justement, il y avait trop de monde, en fait. C'était dans le 15e, non. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule sur le 15e arrondissement. Je me suis fait des ennemis. Allez, je prends une ou deux dernières questions avant de vous laisser. Yep. Ben, je vois pas qui fait des dons Tipeee, mais j'ai vos mails, sinon on ne peut pas vous répondre. Sois logique. Est-ce que je connais les produits Tascam pour des micros multipistes? Non, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas, je n'ai pas testé, donc je ne pourrais pas te dire la qualité par rapport au Zoom H5. Je ne me prononce pas vraiment sur des produits que je n'ai pas testés. Penses-tu que l'année prochaine, les maquettes bateaux drones en bouteille seront à la mode? Il y aura peut-être des drones en bouteille vu qu'on ne pourra plus les faire voler, ça, c'est pas exclu. Penses-tu que Apple va sortir des MacBooks sans bord? Peut-être même sans clavier, ça s'appellera des iPad Pro. Supputation. As-tu des adresses pour les écoles audiovisuelles sur Paris pour mon fils? Aucune idée. J'ai absolument pas fait de formation audiovisuelle. Donc, je ne connais pas du tout des écoles. Je suis désolé. Pour les gourmands, dans le 15e, on a la pâtisserie des rêves de Philippe Condé. J'ai les habitants du 15e qui se rebiffent. Prochain auto-catering dans le 15e. Le micro zoom pour iPhone est-il efficace? C'est quoi le micro zoom? Je connais pas le micro zoom. Pour l'audiovisuel, il y a l'ESRA, mais c'est dans le 15e, nous dit Pascal Mabi. Ah, par contre, tu as la Fémis pour le cinéma, et c'est juste à côté de chez moi. Ouais, demain, je vais attaquer un département français aussi. Je vais me lancer dans la polémique. Hein ? Habitants de la Creuse, demain, méfiez-vous. Ah, le micro, ah, tu veux dire, le micro des Zooms. Moi, c'est vrai que les Zooms, je les vois plus comme des enregistreurs que des micros. Mais oui, les micros sont bons, mais encore une fois, vous ne posez pas la bonne question. Vous ne pouvez pas me demander si un micro est bien sans me dire pourquoi faire. Les micros, c'est comme les objectifs. Il y a des variétés de micros. Le micro universel qui fait tout bien, ça n'existe pas. L'objectif qui fait tout bien, ça n'existe pas. Donc, quand vous voulez me poser une question sur un micro, déjà, vous me la posez sur Tipeee, si elle est longue. Et vous me dites, je voudrais enregistrer ça, ça, ça et ça. Quels sont les micros qu'il me faut ? Alors, la plupart des temps, les gens me disent, je voudrais enregistrer des concerts, faire des interviews dans des endroits bruyants et prendre le son chez moi et également enregistrer une guitare. Tout ça avec un micro, lequel tu me conseilles ? Bah, non, je vais te conseiller 4 micros différents. Non ! Non, tu te trompes, Chris. C'est pas d'abord l'éclairage. J'ai toujours dit... retenez bien cet ordre. Vous pouvez l'inscrire dans vos chiottes, hein, en lettres dorées. Les règles d'achat audiovisuel selon Jérôme. 1, le micro. Deuxièmement, la lumière. Troisièmement, le décor si vous tournez en intérieur. Et optimisez son décor pour le son et pour le visuel. Et quatrièmement, une caméra. Et bien sûr... au-delà de tout ça, au-dessus, avoir une idée intéressante ou une histoire à raconter. Le problème, c'est que vous achetez tout dans le désordre. Et moi, le premier. Hein. Vous achetez d'abord la caméra, ensuite un peu de lumière pourrie, le micro, oh merde, j'ai plus que 50 euros parce que j'ai tout claqué dans la caméra. Puis ouais, le décor, je m'en tape. SOS Ciné, tu vas me mettre au chômage avec tes conseils. Et si vous voulez louer du matériel, allez chez SOS Ciné. Ils sont pas chers, ils sont bons. Ils sont rustiques, dans le bon sens du terme. Je t'en reparlerai, Albert. Les valeurs de la rusticité chez les militaires et dans l'audiovisuel. Nous en parlons beaucoup avec Olek. Le décor, c'est pas grave, au pire, tu mets une télé avec l'heure. Putain, t'es méchant, franchement, je vous ai fait un décor de Noël et tout, quoi. Je vous ai même fait un sapin. Et en plus, effectivement, chez SOS Ciné, vous avez des cours de cascade, comment faire une chute réaliste en 180 images secondes gratuitement. Rustique, c'est dans le 15e. Ah là là, putain, vous avez bouffé des clowns hein, ce matin. Il manque le pot d'herbe en plastique Ikea quand même. C'est pas faux. Faudrait mettre la date avec l'heure. Eh, vous n'avez pas des montres, vous n'avez pas des smartphones pour regarder la date. Eh, elle y est la date, hein. Mais elle est en petit. 20 décembre. Plus que 4 jours avant Noël. C'est le 24 ou le 25 Noël ? La question que tout le monde se pose chaque année, c'est comme le feu d'artifice du 14 juillet. C'est le 14 ou le 15 ? La veillée de Noël, c'est le 24, c'est ça. Et le jour de Noël, c'est le 25. 5 jours avant Noël. Elle est bien ton app, je la trouve pas sur le store. L'app pour l'heure ? Là, pour l'heure, attendez, je vais vous la redonner. Je me souviens plus du nom exact. Je laisse mon micro juste pour prendre... Ça s'appelle The Clock. The Clock, écrit en anglais. Hein. Pas The Clock. Pas The Clock au doigt. Hein. The Clock tic-tac. Oui, c'est une app Apple TV. As-tu déjà été sollicité par la télé? Oui, mais je leur ai dit non. Parce qu'ils n'ont pas de sous. C'est pire que moi. C'était de la petite télé. Hein. Mais à l'époque de No Watch, ouais, on avait été approché même par une grosse télé. Mais ça ne nous intéressait pas du tout. À la télé, ils te proposent de faire plein de choses, mais sans te payer. Mais tu vas être à la télé. Ça va être bien, tu vas être à la télé. Mais j'en ai rien à foutre, je fais plus d'audience sur le web. On va te faire foutre avec ta télé. Sollicité par Drucker, non. M6, gratos, tranquille. Après, oui, je suis déjà passé à la télé, mais ça me fait toujours rire les gens. Ah, mais putain, t'es passé à la télé, je t'ai vu à la télé. Ça m'a même pas rapporté un seul abonné YouTube d'être passé au journal de midi sur TF1, quoi. Pas un seul abonné. Eh ben tiens, tu vois, je l'ai en main, le Victorinox. Alors, le Victorinox, c'est le... Attends. Oui, justement, je voulais en reparler. Tu fais bien, j'ai complètement oublié de vous en reparler. Je voulais en reparler parce que, effectivement, ils m'ont contacté derrière. Si vous voulez le personnaliser, votre Victorinox, ça se passe sur leur site. Moi, ils m'en ont fait un Nowtech TV qu'il va falloir refaire hein, parce qu'on ne s'appelle plus Nowtech TV, mais juste Nowtech. Non, c'est pas grave, je plaisante. Et en fait, le modèle que j'ai, il est vachement bien parce qu'il a tout ce système de tournevis spécial tech avec des pointes interchangeables et des mini cruciformes, même des trucs en étoile pour démonter des trucs Apple. Ça, c'est super pratique. Je m'en sers déjà à donf, quoi. Donc, sur le site Victorinox pour la personnalisation. Et c'est rustique, exactement. Exactement, un bon produit rustique. Sans blabla, sans chichi et sans... Alors, le modèle, c'est le Cybertool, voilà. C'est le Cybertool, donc il est cyber. Et c'est un tool. Non, il n'y a pas de Wi-Fi dessus. Mais tu as une antenne. Il coûte combien? Je te propose d'aller voir sur le site. Je sais plus. Bah pour moi, c'est pas du tout le... J'ai un Lyol aussi. C'est absolument pas le... C'est pas la même... Un couteau suisse, c'est un couteau suisse, quoi. On n'a jamais fait mieux que le couteau suisse. Bah c'est pas avec un Lyol que je vais pouvoir dévisser un cruci, quoi. 76 sur Amazon en promo, on me dit. Je crois qu'il y a plusieurs modèles hein, du Cybertool, hein. Je crois qu'il y a plusieurs modèles différents. Je vois qu'il y a le Cybertool 29, le 34, le 41. L'Aïol, c'est dans le 15e. Putain, hey, il est 28. Il est c'est n'importe quoi. Il est 9h30. Je vous laisse. Hein? Micro stéréo de la marque Zoom pour iPhone, pour enregistrer la voix. Jamais testé ça, ce système-là. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Il y avait 4 sujets, 1h30 de live, c'est un peu ça, ouais. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Reposez-vous bien, travaillez bien, selon si vous êtes en vacances ou au boulot. Ne paniquez pas sur les cadeaux de Noël. Amazon a promis qu'ils pourraient livrer même le jour de Noël. Et de toute façon, Amazon, bientôt, vont vous livrer directement sous le sapin. Non, mais il y en a d'autres. Mais vous pouvez, voilà, si vous êtes en retard sur les cadeaux de Noël, pas de panique. Hein. Moi, je panique. Regardez, je panique pas. J'ai fait encore aucun cadeau. Je panique pas. De toute façon, je fais pas de cadeaux. J'aime pas les gens. Allez, merci Arnaud pour ton super chat de la dernière minute. Et à demain. Ciao tout le monde.